Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour les vols spatiales. S'il y a bien une machine en science-fiction qui a une importance cruciale, c'est les vaisseaux spatiaux, les véhicules qui nous emmènent loin et qui vont pouvoir être le siège d'aventure ou le vecteur d'exploration. Ce matin, on en discute à la fois avec des scientifiques qui sauront vous dire ce qu'il y a dans les tiroirs et des romanciers qui vont pouvoir nous mener loin dans l'imaginaire. Laurence Suner, à notre gauche, est dessinatrice, auteure de BD et novelliste et romancière, auteure de la trilogie Quantica. Olivier Grasset, qui est ici. Bonjour. Et planétologue, professeur à l'Université de Nantes, et directeur du laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes-Angers. Et il prépare avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, je dirais plus tard, la future mission planétaire vers le système de Jupiter, qui s'appelle JUICE, et qui va partir en 2022. Olivier Gechter, qui est tout de suite à ma gauche, est ingénieur mécanicien et écrivain, auteur de plus de 30 nouvelles de science-fiction et fantastique, ainsi que de romans steampunk comme Le Baron Noir et fantastico-rigolo, dit-il, comme Évariste. Elisa Cliquet-Moreno est ingénieure à la direction des lanceurs du Centre national d'études spatiales, que j'appellerai CNES dans la suite. Passionnée d'exploration spatiale, elle est également membre de l'association Planète Mars. Du coup, elle aura des choses à nous dire certainement sur ce sujet. Et Loïc Henry, je suis vraiment dans le désordre, est novelliste et romancier, auteur de L'OAR, qui a été prix imaginal des lycéens en 2014, et des océans stellaires. Alors, mesdames et messieurs, première question, quel est votre véhicule spatial préféré? Avec quoi iriez-vous explorer le monde, l'univers ou vers votre destination rêvée si une fée s'approchait de vous et vous disait « Je peux faire fonctionner pour toi le vaisseau de tes rêves, qu'il soit imaginaire ou encore en projet dans les tablettes des agences spatiales. Avec quoi partiriez-vous » Qui veut commencer? Honneur aux dames.
One two.
Laurence Suner.
Oui, alors, il y en a plein. Mais d'un point de vue visuel, il y en a plusieurs. J'en ai envoyé quelques photos. Le bateau. Ça commence, je suis pas réveillée. Le vaisseau des Cylons dans Battlestar Galactica. Parce que je trouve qu'au niveau de l'esthétique, il me plairait beaucoup. Après, bon, le Battlestar Galactica, pour son intérieur complètement désordre, bordélique et compagnie. Mais j'aime bien les choses qui sont pas très ordrées. Le vaisseau dans 2001 l'Odyssée de l'espace, qui fait très classique, quoi, enfin, dans le visuel. Et à part ça, tout moyen de transport non conventionnel, en fait, qu'on n'a pas encore imaginé. Et j'ai trouvé très très beau le visuel que m'avait fait Manchu, en fait, pour ma série Quantica. Donc un vaisseau organique qui, à la base, devait pas du tout être comme ça, mais qui a fait quelque chose de très design et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer au niveau de la technologie des humains, on va dire quelque chose avec des formes vraiment organiques qui ressemblent plus à un être vivant qu'un engin constitué de matériaux composites, etc. etc. Et choix de la navigation, les trous de verre, alors ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. Mais bon, j'aime beaucoup les vaisseaux spatiaux, j'aime beaucoup les bateaux, je navigue, donc en fait l'image de tout véhicule en fait qui nous protège de l'extérieur, et aussi on peut penser une planète, c'est aussi un vaisseau spatial qui navigue dans le cosmos, donc une belle planète, c'est un beau vaisseau spatial aussi. Voilà.
Alors vous avez des vaisseaux qui circulent sur l'écran. Et le vaisseau que Laurence vient de citer, enfin, parmi les vaisseaux qu'elle a cités et qui est le sien dans Quantica, passe aussi, et c'est une très belle illustration de Manchu. C'est un vaisseau immense et de forme complètement délirante, parce que proche d'un être vivant. C'est comme ça que vous l'avez imaginé. C'est presque un vaisseau avec une intelligence éventuellement.
Alors, il n'a pas d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de totalement différent. Je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est effectivement un vaisseau qui est plus à l'image des habitants de sa planète d'origine. Et il le considère comme... il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire c'est simplement un habitant de cette planète, mais à l'échelle cosmique. Donc, c'est pas vraiment, il ne le considère pas comme un vaisseau. D'ailleurs, il ne l'appelle pas un vaisseau. Il l'appelle par son nom, qui est l'ouvreur des chemins, mais il ne l'appelle jamais vaisseau. Donc, pour eux, c'est un être simplement qui est d'échelle cosmique, en fait, d'échelle cosmologique, si on veut, qui peut accéder, qui n'est pas au niveau de l'individu qui habite sa planète, mais au-delà, mais c'est un être vivant. Voilà.
Elisa Cliquet Moreno.
Alors moi, je suis née après les années Apollo, et donc c'est une petite frustration de ne pas avoir vu décoller Saturne V. Et donc peut-être que si j'avais une fée, j'aimerais bien juste lui demander de me faire un petit voyage en arrière dans le temps pour me ramener un jour de décollage de Saturne V, quoi, parce que c'est vraiment une fusée absolument incroyable. Hein, faut imaginer 3000 tonnes qui décollent et qui emmène 3 astronautes vers la Lune. Et c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé voir. C'est un mastodonte monumental. Il paraît qu'on pouvait sentir le sol trembler à 80 km à la ronde quand une Saturne V décollait. Donc autant dire que ça devait faire également beaucoup de bruit. Et après, forcément, ma petite chouchoute, hein, dans les images qui défilent, c'est Ariane 5. Alors elle nous emmène pas bien loin. Elle emmène personne, en fait. Elle emmène que des satellites et des sondes, mais c'est notamment elle qui a envoyé Rosetta et le petit atterrisseur Philae, dont on a entendu pas mal parler. Alors, il est parti en 2004, hein, donc c'est sûr qu'en termes de voyage, hein, ça met un certain temps. Mais finalement, c'est aussi des missions comme ça qui nous font rêver. Alors, c'est pas des grands voyages interstellaires, mais finalement, même avec nos petites fusées, on arrive à envoyer des sondes qui vont quand même assez loin. Alors, elles mettent du temps, certes, mais c'est vrai que Voyager, aujourd'hui, est à la limite, hein, du système solaire, et ça a été envoyé avec une fusée toute simple, et on arrive quand même à aller assez loin avec ça. Donc, ce serait déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien juste revivre un décollage Saturne V.
Olivier Grasset, pour aller vers Jupiter.
Ah non, je vais beaucoup plus loin. On me pose une question de folie avec des fées, donc je me lâche. Dans les images qu'on voit, on voit des bateaux, on voit les voiles solaires, qui sont des choses réelles, et on voit aussi les moteurs photoniques. Dans un voyage, il y a un départ, il y a une arrivée, et il y a le voyage lui-même. Et moi, ce que j'adore, c'est le voyage lui-même. Donc, tant qu'à partir pour de vrai, autant profiter du voyage. Et la meilleure façon de faire, dans le vaisseau de mes rêves, c'est de prendre un bateau avec des voiles stellaires, gigantesques, façon la planète au trésor, pour ceux qui l'ont vu. Parce que là, on vit le voyage de plein fouet. On va surfer sur les ondes gravitationnelles, on va se prendre les tempêtes de rayons gamma, on va se prendre les coalescences de trous noirs, on va comprendre ce que c'est que l'espace, on va bénéficier du voyage, et on va en plus rêver, puisqu'on va être avec un capitaine, des matelots, et on va se faire pousser par les vents des étoiles. J'adore ça, ça me va, c'est mon vaisseau du futur.
Formidable. Alors, c'est vrai que parmi les navigateurs, il y a ceux qui aiment la mer, et puis il y a ceux qui aiment les bateaux. Vous êtes plutôt ceux qui... Vous faites partie de ceux qui aiment la mer pour comprendre ce qui s'y passe.
En fait, je suis un montagnard, moi. Je fais que de la montagne. Mais ce n'est pas un problème. Le fait est que pour voyager dans l'espace, ce n'est pas en franchissant des montagnes, c'est en franchissant des espaces totalement inconnus qui sont beaucoup plus en correspondance avec, j'imagine, les voyages maritimes d'antan. Qu'avec l'ascension de l'Everest. Donc clairement, oui, je prends un vaisseau, puis je prends les personnes compétentes pour m'emmener, parce que moi, j'en suis pas capable. Mais il faudra dresser les voiles stellaires, il n'y a pas de problème.
Loïc Henry.
Bonjour à tous. C'est vrai que je suis en train de regarder les vaisseaux de mes petits camarades en même temps qu'ils parlent. J'aime bien le vaisseau d'Albator. Alors, je m'en veux un peu de ne pas avoir eu l'idée. Alors, je suis un peu jaloux, mais je ne sais pas qui l'a choisi. Moi, j'en ai choisi deux, en fait, puisque en tant qu'auteur, on est confronté à deux problématiques qui sont un peu antagonistes. C'est-à-dire, d'un côté, on veut quelque chose qui soit relativement cohérent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas commencer à dire que... il part sur un vaisseau qui fait teuf-teuf, et puis trois jours plus tard, il arrive à Proxima du Centaure. À un moment donné, je pense que le lecteur lèverait un sourcil et dirait c'est quoi ce délire, ainsi de suite. Donc on a un souci de cohérence, et en même temps, on n'a pas forcément envie non plus de passer 50 pages à expliquer le fonctionnement d'un vaisseau, sauf pour les romans de hard science, mais bon, c'est pas mon choix en tout cas. Donc on est confronté à cette double problématique, ce double écueil, j'ai envie de dire, à la fois d'avoir quelque chose qui reste cohérent, qui garde le lecteur dans l'histoire, et en même temps qui ne phagocyte pas, je dirais, l'histoire. Donc comme c'est un peu schizophrénique, j'ai mis deux vaisseaux qui n'ont rien à voir, donc on continue dans ce côté un peu schizophrénique. Le premier, c'est celui d'Interstellar. Alors il y a des défauts, hein, j'ai vu des critiques sur le réalisme de ce vaisseau, mais en tout cas il y avait un souci du réalisateur de montrer quelque chose qui paraissait cohérent d'un point de vue scientifique. Alors, on peut critiquer ainsi de suite, mais en tout cas il y avait un souci de cohérence qui était recherché. Et le deuxième, pas du tout. En fait, le deuxième, c'est une pyramide, c'est dans Immortel pour ceux qui ont vu le film. Donc là, le souci de cohérence, on va dire qu'il est un peu moins flagrant que dans Interstellar, mais c'est pas grave parce que ça s'intègre quand même bien à l'histoire, et on est sur une logique de mélange entre la science-fiction et la mythologie égyptienne, donc ça sous-entend que c'est ces vaisseaux qui ont peut-être inspiré les pyramides en Égypte. Donc j'aimais bien ces deux extrémités pour les vaisseaux, pour le choix des images.
Merci. Olivier Gechter.
Oui, donc déjà bonjour. Alors désolé d'avoir piqué ton vaisseau. Albator, c'est le mien. En fait, tout petit, un de mes plus grands bonheurs dans ma vie, les premiers bonheurs de ma vie, c'est quand il y a eu deux épisodes d'Albator à la suite, alors que d'habitude, il n'y en avait qu'un. Et là, j'ai eu une bouffée de plaisir. C'est comme ça. Et donc, je m'amusais à faire des vaisseaux d'Albator avec des capsules de stylo que je faisais fondre au briquet. Mes parents m'engueulaient à cause de l'odeur et ça a dû un peu m'attaquer après. Donc pour moi c'était le vaisseau quoi. Que je pouvais jouer avec une maquette de bateau, un galion et faire c'était vraiment excellent. Par contre,
alors,
après
le galion qui circule là, c'est vous qui m'en avez donné l'idée.
Oui, parce que j'avais une maquette de la Santa Maria et c'était mon vaisseau spatial en fait. J'avais peint des réacteurs à l'arrière, mais le problème c'est qu'après on devient ingénieur et puis on perd la fraîcheur de la jeunesse et on se dit ça marche pas, puis l'antigravité ça marche peut-être pas, et puis la vol supraluminique, ça se trouve on est complètement grillé quand on arrive ou on fait exploser le point d'arrivée. Donc petit à petit on se tourne vers Rama quoi, parce que finalement moi c'est le seul vaisseau que j'arrive à trouver encore réaliste finalement. C'est-à-dire que si on veut faire du vol très très long, faut embarquer tellement de choses qu'à la fin on fabrique Rama ou alors on creuse un astéroïde. Et puis on va peut-être lui aménager une sorte de voile, soit en faisant une parabole à l'arrière pour récupérer les vents solaires ou je ne sais quoi, mais on y va pour longtemps, donc on emmène tout ce dont on a besoin, c'est une roulotte spatiale quoi. Et si on met 400 ans pour arriver, tant pis, on a ce qu'il faut à l'intérieur. D'ailleurs on se rappellera peut-être plus de ce qu'il y a à l'extérieur en arrivant, mais ça fait des problématiques de romans intéressantes.
Alors justement, tous ces vaisseaux, comment on les fait fonctionner? Comment on les fait décoller, se déplacer dans l'espace? Est-ce qu'on les fait, par exemple, avancer à la mauvaise nouvelle, comme l'a imaginé Douglas Adams, à la voile? C'est vrai qu'il existe, on a dit tout à l'heure, des voiles solaires. Il y a un petit appareil qui circule, qui est de la NASA, qui s'appelle NanoSail. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre, par exemple, Elisa Cliquet?
Alors déjà, un petit mot sur les voiles solaires. Ceux qui sont quand même pas mal avancés là-dessus, c'est les Japonais, donc qui ont lancé une voile solaire de 200 mètres carrés qui a été la première voile solaire opérationnelle qui s'appelait Icaros. Donc c'était une sonde de 300 kg avec une voile solaire de 15 kg qui a été vers Vénus en fait en à peu près 6 mois. Alors pas à la force de sa voile, hein, mais simplement avec l'attraction du Soleil. Mais ils ont quand même mesuré une accélération liée à la voile solaire. Donc bon, cette accélération, donc pour une voile de 200 mètres carrés, elle était de environ 1 millinewton. Donc c'est des accélérations qui sont très faibles, des poussées qui sont très faibles. Et donc si on veut imaginer voyager avec une voile solaire, il faut effectivement être super fort en origami, faire des pliages absolument géniaux pour réussir à déployer après des voiles solaires immenses. Et il ne faut pas être pressé. Mais c'est une solution magnifique, hein, super élégante. Et il y a aussi même une association, en fait, la Planetary Society, qui, dans un petit CubeSat, a fait tenir une petite voile solaire et puis l'a déployée. Donc ça, c'était en 2015. Elle était un peu plus petite. Et il y a toujours eu dans les tiroirs une course-poursuite vers la Lune en voile solaire. Il y a toujours eu cette idée d'un concours pour atteindre la Lune en voile solaire, bon, qui n'a pas encore été concrétisé, mais il n'est pas impossible qu'un de ces jours, le challenge soit relancé. Après, aujourd'hui, toutes les sondes qu'on a pu envoyer, elles s'appuient surtout sur l'assistance gravitationnelle. Donc, elles vont rebondir grâce à la gravité des planètes qu'elles vont rencontrer sur leur chemin pour finalement atteindre leur but. Après, c'est vrai que là, on voit un exemple de propulseur électrique donc qu'on peut alimenter avec des panneaux solaires. Et en fait, on va utiliser un gaz, donc typiquement le xénon, mais aussi, pourquoi pas, de l'argon ou du krypton. On va chauffer ce gaz jusqu'à en faire un plasma. Et ce plasma très chaud, on va l'accélérer. Alors, il y a différentes méthodes pour l'accélérer. Donc, c'est soit sous l'effet d'un champ électrique, soit sous l'effet d'un champ magnétique, soit en effet combiné champ électrique, champ magnétique. Et ça permet en fait d'éjecter ce plasma à des vitesses très importantes, donc de l'ordre de 15 000 mètres par seconde, ou même plus, hein, on peut aller jusqu'à 30 000 mètres par seconde. Et ça, c'est des choses qui volent déjà, hein, qui ont déjà été utilisées sur des missions, donc des missions japonaises, américaines, Hayabusa, Dawn, mais aussi SMART, hein, une petite sonde européenne qui a été vers la Lune en propulsion solaire électrique. Et la prochaine mission européenne qui utilisera cette propulsion, c'est BepiColombo, qui ira vers Mercure. Alors, elle utilisera aussi quand même de l'assistance gravitationnelle, parce que malgré tout, avec la puissance qu'on peut avoir avec des panneaux solaires qui, eux-mêmes, hein, il faut les plier, les déployer, etc., ils ont un certain poids. Aujourd'hui, on n'arrive pas à générer des puissances très importantes. Hein. Un gros satellite en orbite géostationnaire qui a des panneaux solaires, il va réussir à peu près à générer 20 kW. Si on voulait envoyer, par exemple, des hommes vers Mars en propulsion électrique, en environ 6 mois, il faudrait plutôt avoir 10 mégawatts. Voilà, donc il nous manque quand même des ordres de grandeur, hein, si on veut pouvoir aller vite avec de la propulsion électrique. Donc il y a bien sûr des études pour regarder. Bon, le solaire, c'est très bien tant qu'on est proche du soleil, tant qu'on n'a pas besoin d'une puissance démentielle, tant qu'on ne veut pas aller trop vite. Par contre, si jamais on voulait vraiment aller vite, toujours en propulsion électrique, à ce moment-là, il faudra envisager d'autres sources de puissance. Et d'autres sources de puissance, donc ça peut être potentiellement une petite centrale nucléaire qui génère de l'électricité pour alimenter les propulseurs électriques. Mais ça reste des concepts, hein, aujourd'hui. Alors il y a déjà eu, hein, des petits réacteurs nucléaires qu'on volait, hein, pas pour faire de la propulsion, juste pour générer de la puissance. Donc c'est les Russes, hein, qu'on a envoyé une trentaine dans les années 70-80. Et donc ce qu'on a aujourd'hui, en fait, sous le coude, disons, ce qui va voler dans les prochaines années, ça reste de la propulsion solaire électrique et du rebond gravitationnel pour aller loin. Donc ça reste assez terre-à-terre. Et les voiles solaires, bien sûr, ça c'est quelque chose qui commence. Hein.
Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour aller vers le système de Jupiter avec la mission JUICE, Olivier Grasset?
On est sur du conventionnel. C'est-à-dire que c'est surtout du rebond gravitationnel. On s'arrache péniblement de la Terre avec une Ariane 5 pour faire partir les 5 tonnes en masse mouillée, et c'est-à-dire tout l'ergol plus la masse sèche elle-même de l'engin spatial. Et ensuite, on va faire un survol de Vénus, deux survols de la Terre. En fait, on va faire un Vénus-Terre-Terre, c'est-à-dire trois ellipses, pour finalement aller à Jupiter. Et après, tout l'ergol qu'on a disponible, il va essentiellement servir aux manœuvres au sein du système de Jupiter pendant 3 années. Voilà. Mais le principe de base, c'est arriver à décoller et puis utiliser Mercure-Terre-Terre en rebond gravitationnel pour arriver finalement en 7 ans au système de Jupiter. Classique.
Pour aller sur Mars, on a commencé un petit peu à en parler, pour aller sur Mars avec des hommes et pas seulement pour déposer des sondes ou des robots qui vont étudier la surface de Mars, là ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir d'abord assurer la sécurité, faire reposer les gens, atterrir les gens sur Mars sans trop de choc, contrairement à Schiaparelli qui a été déposé par ExoMars un petit peu brutalement ces derniers temps. On progresse. Quels sont les progrès là-dedans?
Alors là, c'est vrai que la vraie difficulté, ça reste de s'arracher de la Terre. Et finalement, en termes de la vitesse qu'on demande en fait, hein, un véhicule pour qu'il puisse se libérer de l'attraction terrestre. C'est phénoménal parce qu'en fait on va lui demander d'être pas loin de, enfin d'être finalement quasiment à 40 000 km/h. Donc il faut réussir à donner à un véhicule cette vitesse là et ça demande une puissance phénoménale et donc bon, par exemple Ariane 5 au bout de 2 minutes elle est déjà à 7 200 km/h. Et grâce finalement à ces énormes propulseurs solides là, qui développent à eux seuls 17 gigawatts. C'est monstrueux. Et avec ça, on envoie juste, et c'est déjà quand même pas mal, 10 tonnes en orbite. Alors que pour envoyer des hommes sur Mars, il faut que, en plus de cette vitesse de libération de 40 000 km/h, il faut en plus donner une vitesse supplémentaire qui va mettre le vaisseau sur une trajectoire Terre-Mars. Mais au final, c'est le Soleil qui fait le boulot. Hein. Une fois qu'on est en orbite autour du Soleil, c'est lui... on ne propulse pas, hein, c'est lui qui va nous amener jusqu'à l'orbite martienne. Et le truc, c'est que pour emmener des hommes, il va falloir qu'on emmène de la masse. Hein, et une mission martienne, en gros, ça peut durer 6 mois à l'aller, 18 mois à la surface, 6 mois au retour. Et en gros, hein, il faudrait à peu près 30 tonnes pour un équipage de 4 à 6 personnes, quoi. Et ces 30 tonnes, il faut qu'on les amène à la surface de Mars. Donc il faut qu'on leur donne ces 40 000 km/h, qu'on leur donne ce petit supplément de vitesse pour aller vers Mars, qu'on les freine, et qu'ensuite qu'on atterrisse. Donc qu'on les refreine pour un atterrissage en douceur. Et puis il faut emmener aussi de quoi rentrer. Donc non seulement il faut ces 30 tonnes, mais en plus il faut emmener de quoi les ramener. Alors il y a des solutions qui sont étudiées pour minimiser la masse qu'on doit envoyer. Donc il y a des idées. Donc par exemple, produire les ergols de retour à la surface de Mars en utilisant son atmosphère. Donc en emmenant un peu d'hydrogène avec le CO2 de l'atmosphère, on peut faire une réaction chimique dans une petite usine entièrement automatique pour produire de l'oxygène et du méthane. Qu'on va mettre dans une fusée qui aura été déposée là avant, et tout ça de façon entièrement automatique. Donc ça reste très conceptuel. Disons qu'on peut faire des petites démonstrations en laboratoire qu'on sait faire ces réactions chimiques de façon automatique, etc. Par contre, de là à mettre en œuvre un lanceur, regardez, qu'est-ce que c'est un lanceur au sol, hein. Il a une table, il a des tuyaux de partout qui viennent lui amener son oxygène, son hydrogène, etc. Mettre ça en œuvre de façon entièrement automatique sur une autre planète, on est encore malheureusement assez loin d'y être. Et pour éviter d'emmener trop de masse aussi pour le freinage, on peut imaginer se servir de l'atmosphère de Mars. Donc il y en a qui envisagent carrément ce qu'on appelle une aérocapture, c'est-à-dire ils vont viser en fait la planète, ils vont viser de pas surfer sur l'atmosphère, mais rentrer dans l'atmosphère suffisamment pour freiner, puis en ressortir et être en orbite. Donc là, il ne faut pas se louper, hein, parce que si je vise trop haut, je vais rebondir. Et donc là, je fais finalement un rebond gravitationnel. Salut, au revoir. Et soit je vise un peu trop bas, puis là, je me crache. Donc c'est une technique qui n'a pas encore été démontré. Par contre, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est de l'aérofreinage. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs passages dans l'atmosphère et l'atmosphère va me freiner petit à petit pour descendre mon orbite. Donc, au final, la grosse difficulté, c'est qu'il faut emmener beaucoup de masse. Et pour emmener beaucoup de masse, il faut la faire décoller du sol, cette masse. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs options, mais c'est vrai qu'avec de la propulsion type Apollo, on pourrait imaginer envoyer plusieurs équivalents de Saturne 5 pour assembler quelque chose qui irait vers Mars. Hein. Donc là, on voyait une image SpaceX. Elon Musk, au mois d'août, là, lui, il a proposé de faire ça avec un lanceur finalement conventionnel mais monstrueux et d'en envoyer plein. Qui serait réutilisable pour assembler ce gros train spatial en orbite et puis aller vers Mars. Après, on peut sinon attendre qu'il y ait des moyens de propulsion un peu plus sophistiqués pour nécessiter moins de masse au décollage. Mais on aura quand même, si on veut emmener des hommes, il faut emmener de la masse et il faut la faire décoller. C'est quand même la grosse difficulté du problème.
Alors, imaginons maintenant que ça y est, on sait comment propulser tout ça, on sait faire des voyages, y compris hors du système solaire, éventuellement des voyages intergalactiques. Ces voyages, ils durent quand même un certain temps. Comment on y vit dans les vaisseaux ? Est-ce que vous pouvez, l'un après l'autre, me dire quel est la vie, le mode de vie? Alors, on a vu au cinéma le vaisseau de 2001, l'Odyssée de l'espace. On a vu déjà un petit peu comment les cosmonautes pouvaient vivre là-dedans. Plus récemment, dans Seul sur Mars, on a vu un vaisseau. Alors, il paraît qu'il n'était pas réaliste, mais on a vu un peu la vie des voyageurs là-dedans. Comment vous imaginez votre vie dans un voyage dans l'espace? On commence par les mêmes? Laurence, Olivier.
Bon. Pas très réveillé toujours. Ça dépend un peu. En tant qu'auteur, en fait, on peut imaginer quelque chose de complètement extravagant. Ou alors on peut essayer de s'en tenir un peu à la réalité. Pour certains des futurs romans que j'ai envie d'écrire, notamment la suite de ma série, là, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment de la science-fiction. Ça a l'air de l'imaginaire poussé. On imagine une technologie différente, etc. Voilà, par exemple, comme le Grand Arc, qui est un vaisseau monde, qui est un vaisseau océan, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui a carrément une faune, une flore, etc., mais de type océanique. Et qui surprend énormément les colons humains quand ils y débarquent. Ils se disent, mais il y a de l'eau, ils transportent de l'eau à bord, mais c'est lourd l'eau, enfin c'est complètement... Mais bon, pour penser à quelque chose de plus réaliste, il y a quelque chose qui m'a frappé dans un des bouquins que j'ai lu assez récemment. J'ai lu le deuxième tome, en fait, des Enfants de Poséidon de Lester Reynolds, où lui, en fait, il utilise des astéroïdes qu'il creuse. Et c'est des voyages qui durent, mais vraiment des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et c'est comme des petites planètes à l'intérieur, c'est-à-dire c'est des petites planètes intérieures, c'est-à-dire au lieu, nous on est sur une planète, on a notre atmosphère qui nous protège, eux ils sont à l'intérieur d'un astéroïde et c'est vraiment des voyages. Et comme disait tout à l'heure Olivier, je crois, on oublie carrément, ou je ne sais plus qui c'était qui l'a dit, on oublie, quitte à oublier en fait pourquoi on est parti, est-ce qu'il y a un extérieur. Et d'ailleurs à un moment donné, ils se posent la question, ils ont décidé d'aller en direction de cette planète qui s'appelle Creuset, où ils ont découvert en fait des signes de vie. Et des siècles s'écoulent et certains disent non, mais nous on veut pas freiner, on veut continuer à. Ils ont oublié même leur objectif, se dire mais nous on va pas. Ils ont perdu leur technologie pour freiner en fait. Et certains disent nous on va continuer en fait, parce que c'est le vol en fait en lui-même qui est intéressant. Puis on est dans ces astéroïdes, puis ça nous intéresse plus d'aller sur une planète, c'est notre vie en fait. Donc au fil des siècles qui s'écoulent, je sais plus si c'est des siècles ou même des millénaires, je ne me rappelle pas. En fait, ça, c'était assez intéressant parce que c'est des voyages. Imagine, les voyages interstellaires, ça dure, mais une éternité, parce qu'on est très, 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 très loin des planètes, quoi, des exoplanètes, en fait. Donc, ça, c'est la différence entre la réalité et ce qu'on peut mettre en science-fiction. Et quand même, c'est une montagne, quoi. On peut imaginer plein de choses du type de la science-fiction, imaginer des ponts Einstein-Rosen, des trucs comme ça, des trous de verre, etc. Mais la réalité, c'est-à-dire qu'on va voyager très, 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 très longtemps. Il faut trouver un moyen que le voyage soit quelque chose en lui-même, est un but en lui-même, parce que sinon, quitte à oublier la destination, quoi.
Olivier ou Loïc ?
Je rebondis en fait sur ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers n'est pas à échelle humaine. C'est-à-dire que si on suppose qu'on est limité par la vitesse de la lumière, si on exclut le système solaire, alors évidemment, il y a énormément de choses à faire encore. Je crois qu'ils en ont très très bien parlé tous les deux sur Mars, sur Jupiter, voire sur d'autres planètes ou des astéroïdes ou des satellites de ces planètes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on envisage d'aller un petit peu plus loin, enfin même beaucoup plus loin, tous les problèmes qui ont été évoqués, les problèmes de propulsion, les problèmes de durée, deviennent presque insurmontables. Et à un moment donné, on n'a pas 36 000 choix. C'est-à-dire que soit on... Alors, on est un peu obligé de s'extraire de la réalité, mais dans un récit, soit on suppose qu'on invente une technologie qui nous permette d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, c'est un petit peu compliqué au vu de ce qu'on sait actuellement, mais bon, pourquoi pas. Soit on est dans une logique, en effet, de voyage. Hein. J'aime beaucoup ce que tu as dit, puisqu'en fait, là, pour le coup, c'est le voyage lui-même qui deviendrait l'intérêt et non plus la destination. Mais à partir du moment où on est sur une logique de voyage très long, on est soit sur une micro-société qui peut vivre, on peut même imaginer des voyages sur plusieurs générations, ou alors ce qu'on voit parfois dans certains films ou dans certains ouvrages sur de la cryogénie, c'est-à-dire des gens qui sont endormis quelque part et qu'on réveille d'une manière plus ou moins automatique à l'arrivée. Donc ça, c'est la deuxième solution. La dernière, c'est ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs façons de les nommer, mais on va dire les trous de verre pour avoir quelque chose d'un peu générique, c'est-à-dire un petit truc quelque part, quelque chose qui fait qu'on n'est pas endormi, on n'a pas un voyage qui dure des dizaines ou des centaines d'années, on n'est pas non plus sur des vitesses supraluminiques, mais on a à un moment donné un tunnel, un raccourci. Alors vous pouvez appeler ça un trou de verre, vous pouvez appeler ça une manière de tordre l'espace-temps ou ces choses-là, mais en fait, en tout cas, ça permettrait à un vaisseau de voyager à des échelles de temps qui sont humaines. Moi, à titre personnel, c'est le choix que j'ai fait sur mes deux romans. Il y a un premier où l'élément, c'est des nœuds en l'occurrence, mais peu importe, ils sont partie prenante de l'histoire et ce passage est lui-même une des clés de l'histoire. Et dans le deuxième, ça rejoint ta question de tout à l'heure, puisque alors moi, je suis pas montagnard pour le coup, je suis plutôt né à côté de la mer, donc où les passages dans ces passages de trous de verre se trouvent dans les abysses en fait. Et en fait, les abysses des différentes planètes communiquent entre elles. Donc on retrouve des vaisseaux qui ont en fait plus la configuration de sous-marins, puisqu'en fait ils vont chercher des passages sous les mers pour aboutir quelque part sur notre planète aussi sous les mers. Mais en tout cas, si on veut, on est soit dans le principe de réalité, soit dans le principe du récit. Dans le principe de réalité, c'est vrai que l'univers me paraît démesuré par rapport à l'humain et à la durée de vie de l'humain. Dans le principe du récit, après, on essaie évidemment de s'en affranchir parce que, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de faire des descriptions scientifiques qui vont, on peut imaginer le faire en annexe, mais qui vont durer 50 pages ou 60 pages. Et si on se cantonne aux possibilités même existantes et à venir, c'est vrai qu'on est assez vite limité en termes de terrain de jeu.
Olivier Gechter. Ouais,
ça me démangeait d'en rajouter une couche, excusez-moi. Alors, en fait, je voyais une quatrième possibilité, parce qu'à chaque fois, là, on parle de égoïstement être là pour regarder par le hublot comme c'est joli. Mais on peut très bien, enfin, l'humanité peut très bien se résumer à un code génétique et à une base de données de culture, point. Il n'y a même pas d'air dans le vaisseau, on en voit. Puis une fois qu'on arrive en bas, ben, on va cultiver de l'être humain et puis lui inculquer de la culture. Mais on n'a pas du tout besoin d'avoir des êtres humains à bord, hein, en théorie. Surtout si c'est pour aller toujours tout droit dans un cylindre qui se traîne comme une tortue. Après, on va avoir des problèmes de gens qui sont adaptés biologiquement au milieu. Enfin, c'est le bazar, la biologie. Il faut s'en affranchir. Donc, moi, j'aime bien toutes les... Il y a pas mal de nouvelles où, justement, une intelligence artificielle veille sur sa portée, qui sont en fait des petits bébés qui viennent de sortir de la couveuse. Et, pas de chance, la base de données culturelle, elle a cramé à l'atterrissage. Bon, bah tant pis, recréeront une nouvelle humanité, c'est pas grave. Donc, c'est plutôt. J'aime bien le voyage spatial comme ça. On s'affranchit, on sait qu'il y a des problèmes insurmontables. On s'est affranchi en ne mettant pas d'humains dedans. Comme ça, les radiations, on s'en fiche. La nourriture, on s'en passera. Et on crée le couvain qui va aller s'aimer dans le coin. Et là, on crée des nouvelles opportunités d'histoire, parce que bien sûr, on n'aura pas prévu qu'il y a quelqu'un également déjà présent à l'arrivée ou des choses comme ça. Enfin, c'est également une infinité de problématiques. Et le voyage spatial, il devient peut-être un peu anecdotique parce qu'on ne va pas le raconter, mais c'est la base de tout, quoi, du coup. Le vaisseau est la maman de l'humanité.
Alors, imaginons qu'on a déjà, du coup, une civilisation intergalactique, galactique ou intergalactique. Maintenant, les vaisseaux spatiaux ou les véhicules spatiaux vont avoir différents buts. Ça peut être des vaisseaux légers pour faire la guerre des étoiles. Ça peut être des vaisseaux cargo pour déplacer des ressources minières d'un endroit de la galaxie à un autre, etc. Vous avez imaginé aussi ce genre de vaisseaux ? Les vaisseaux de guerre, par exemple, pour que ça fonctionne, faut pour que ce soit hyper rapide, éventuellement invisible, armé, bien sûr.
Si on prend les dernières études là, sur le moteur Alberque, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom du Mexicain qui a fait 2-3 équations sur la déformation de l'espace-temps. D'après sa théorie, le vaisseau lui-même est une bombe supernova parce qu'à l'arrivée, plus le vol a été long, plus il dégage d'énergie, donc il vous pond une supernova à l'arrivée et il n'y a plus personne. Donc ça je trouve comme vaisseau efficace. De guerre, il n'y a rien de mieux, quoi. Vous l'envoyez, puis voilà, on ne le voit pas arriver et hop, le système solaire en face a disparu. Ah, ça c'est bon.
Olivier Grasset ?
Ouais, je refuse de répondre. C'est-à-dire, on a déjà fait énormément de progrès en 50 ans en essayant d'aller de la conquête de l'espace à l'exploration spatiale. On a fait un progrès considérable plutôt vers une notion pacifiste de notre vision de ce qu'est l'extérieur de la Terre. Alors, j'ai surtout pas envie de revenir à une conception des vaisseaux de guerre. Je préférerais d'abord qu'on fasse des voiliers ou ce que vous voulez, mais qui partent explorer. Et sans aller dans l'intergalactique, déjà simplement aller chercher les 3000 planètes qui nous entourent de manière la plus pacifiste possible, ça me convient parfaitement.
Ceci dit, sur Terre, on est d'abord parti explorer,
oui.
Mais ensuite,
un peu le boxon. Moi, je suis avec vous dans la science-fiction, là. Donc, je la veux belle. Voilà.
Non, c'est vrai que ce serait l'idéal, et c'est un peu ce que j'allais dire également. C'est-à-dire que pour moi, l'exploration qu'on aura dans les siècles à venir de l'espace, le coup d'essai, c'est un peu l'exploration qu'on a eue sur les océans. C'est-à-dire que on a découvert des nouveaux continents. Je dis pas que ça se passera de la même façon, mais les humains, le code génétique de l'humain reste le même, en fait. C'est-à-dire que je rêverais que cette exploration soit de A à Z pacifiste, qu'on soit vraiment dans une logique exploratoire, ce serait génial. Mais malheureusement, j'y crois pas une seconde, en fait. C'est-à-dire que je pense que quand on regarde, alors c'est un peu pessimiste, hein, je suis désolé de vous plomber votre dimanche matin, mais quand on regarde l'histoire, si vous prenez une matrice à deux dimensions, c'est-à-dire vous prenez une dimension géographique et une dimension historique, c'est-à-dire vous regardez géographiquement les différents continents et vous regardez historiquement depuis par exemple 2011 ce qui s'est passé, finalement on s'aperçoit que la guerre elle est relativement intrinsèque à l'homme. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas eu de guerre et il n'y a aucun moment où il n'y a pas eu de guerre. Alors il n'y a pas de la guerre partout et tout le temps, mais il y en a tout le temps, quelque part, et il y en a eu partout. Donc moi, je conçois pas, à moins qu'il y ait un changement radical, mais là on est sur un autre sujet, peut-être même génétique, mais à moins qu'il y ait un changement radical de paradigme, qui pour moi est inconcevable, parce que je pense que c'est gravé dans les gènes de l'Homo sapiens, mais bon, je pense qu'à un moment donné, on quittera ce moment merveilleux, féerique de l'exploration, et qu'on aura des entités humaines qui seront en concurrence, en conflit, et que malheureusement, un jour ou l'autre, on sera dans une logique de guerre. Voilà. Et bon, j'espère me tromper, mais de toute façon, je ne pense pas que je serai forcément là pour le voir à ce moment-là, mais malheureusement, je pense que c'est le scénario le plus probable.
Je suis obligé de répondre. Faut pas me prendre pour un grand naïf. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, l'occupation de l'orbite basse, les militaires l'ont bien mieux fait que les scientifiques. D'accord. Et sans aller chercher des films de folie, on sait tous que la guerre des étoiles vue par Bush en 2004, c'était pas pour le plaisir d'aller faire de l'exploration spatiale. On est très clair. À la question posée, bah oui, c'est vrai que la science-fiction se complaît dans les vaisseaux de guerre. Beaucoup plus que... Et dans le combat, je connais, je suis pas un fan, enfin un grand expert, mais on voit quand même beaucoup plus sortir des films où il y a nécessairement des combats que des films qui sont portés purement philosophiques sur l'exploration spatiale. Même seul sur Mars, à un moment donné, on nous fait croire la très belle collaboration chino-américaine. Bon, c'est très bien ce qu'il y a derrière. Donc oui, dans la conception des vaisseaux, de science-fiction, j'entends, je crois que la question la vraiment plus pertinente, c'était, enfin, de mon point de vue, c'était celle d'avant, c'est comment on fait pour vivre là-dedans et voyager là-dedans. Parce que c'est là que je pense que tous les auteurs doivent clairement pouvoir se lâcher et imaginer des choses incroyables. Et souvent, d'ailleurs, c'est rigolo parce que soit, justement, ils luttent contre la déprime via l'alcool, Battlestar Galactica, ou alors par l'hyperactivité à la Star Trek ou à l'Albator, il faut se bastonner tout le temps et c'est la seule façon d'arriver à tenir longtemps. On a beau dire, mais quelque part, ça se limite à ça. Et heureusement, il y a des auteurs qui imaginent tout autre chose, que ce soit dans un contexte agressif ou un contexte pacifique. Et je crois que c'est vraiment là que l'imagination se lâche dans le voyage stellaire, plus qu'à se demander sur est-ce qu'on explore ou est-ce qu'on se bagarre. Voilà.
Juste un petit mot sur... Enfin, la coopération dans le spatial, elle continue aujourd'hui malgré les relations hyper froides, enfin froides, glaciales, entre les États-Unis et la Russie. Les astronautes américains continuent à partir sur Soyouz depuis Baïkonour, quoi. Donc il y a quand même aujourd'hui dans le spatial une coopération qui tient encore la route malgré un contexte géopolitique complexe. Et ça, c'est quand même plutôt positif, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas remis en question. Alors même si les Américains ils développent à côté des moyens pour retrouver un accès autonome à l'espace, mais disons qu'il n'a jamais été question de couper, que les Russes coupent cet accès des Américains à l'espace. Et c'est quand même assez significatif, je trouve, par les temps qui courent, quoi.
Moi, je pense que dans un espace, bon, c'est un peu différent à ce que je vais dire, mais dans un espace confiné, en fait, je pense que malheureusement, effectivement, malgré les beaux idéaux, je pense que c'est difficile. On n'a qu'à voir sur Terre, on est dans un espace confiné quand même sur une planète, et malheureusement, voilà, il y a les ressources qui sont limitées, et à un moment donné, voilà, la chose se pose. Juste pour rebondir sur tout à l'heure, c'est que moi, j'ai écrit une série où il n'y a pas tellement de guerre, et j'ai eu souvent des réactions de lecteurs qui me disaient, mais il y aura quand un combat de vaisseaux spatiaux ? Souvent, c'est revenu, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la science-fiction militaire qui a le vent en poupe, c'est-à-dire dès qu'il y a du space opéra ou des choses comme ça. Moi, j'ai souvent ressenti ça, c'est-à-dire que parfois, on m'a reproché, on m'a dit « mais ils se battent pas ?» Eh ben non, je suis désolée. Et c'est assez rigolo, quoi. On veut des combats de vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire à la Battlestar Galactica, etc. Et ça m'a toujours fait bien rigoler. Et je me dis, mais bon, voilà, l'humain, il est ce qu'il est, en fait. Et on aime bien les combats sur la mer, les navires, les canons, etc. Dans l'espace, forcément, on veut des combats de vaisseaux spatiaux avec des parties qui vont se... Malheureusement, j'ai l'impression que ça fait partie, en fait, du... Alors, moi, c'est pas la science-fiction que j'ai envie d'écrire, mais en même temps... Il y a quand même je me suis rendu compte qu'il y avait une demande en fait à ce niveau-là, quoi. Les colonies, etc. On veut retrouver quelque chose dans ce goût-là, quoi.
Je pense quand même que nos limitations technologiques aussi, ça devrait nous limiter dans les possibilités de nous casser la figure dans l'espace, parce que si on va plus vite que la lumière ou je ne sais quoi, on va pas voir arriver les vaisseaux, donc de toute façon, on va se casser la figure autour des planètes. Ça sert à rien de faire ça entre temps. Et si on met 4 siècles ou plus à rejoindre une autre étoile, on aura oublié pourquoi on se bat et ça va s'arrêter. On va arriver là et pourquoi on se bat déjà ? Je sais pas. Bon, salut. Donc je pense que moi, je décris jamais de bataille spatiale parce que je vois pas l'intérêt. Vaut mieux se bagarrer sur les deux pieds au sol et se battre une fois à l'arrivée, hein, déjà. Et ça, c'est moins cher, il y a moins de matériel à embarquer. Puis on sait où est l'ennemi, il est posé par terre. Et donc, si on fait dans le futur vraiment, on va sur peut-être pas Proxima du Centaure, ça a l'air un peu compliqué comme système, mais un monde proche, on va mettre tellement de temps à y arriver qu'on n'aura pas besoin de se battre. Ils se battront bien tout seuls entre eux sur leur planète, quoi.
Mais on va se battre dans le vaisseau. Parce qu'on va pas se supporter, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des... C'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur du vaisseau.
On n'envoie que du patrimoine génétique. C'est bon.
Alors, dernier type de vaisseau que j'aimerais bien qu'on explore avant de prendre vos questions, messieurs, dames, c'est le cargo. On voit bien qu'actuellement, on utilise déjà l'équivalent de plusieurs planètes par an en ressources naturelles sur Terre. Je pense que si on trouve des ressources ailleurs que sur Terre, on va vouloir les exploiter et les ramener sur Terre. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Qu'est-ce que la littérature de science-fiction a imaginé pour rapporter, transporter, faire commerce de ressources naturelles extraterrestres ?
Bon, je m'y risque, mais la littérature a beaucoup parlé du commerce, parce que c'est vrai que la guerre, en effet, c'est un sujet qui est assez récurrent en science-fiction, en space-opéra. Alors, c'est pas le seul sujet, hein. Il y a quand même beaucoup de romans ou de nouvelles de space-opéra ou de science-fiction en général qui ne traitent pas de la guerre, mais c'est vrai que c'est un sujet assez majeur. De la même façon, le commerce qu'on peut avoir entre différentes planètes ou entités ou galaxies, appelez ça comme vous voulez, c'est un sujet qui est assez récurrent. Mais paradoxalement, ou pas d'ailleurs, on ne s'est pas vraiment penché, enfin les auteurs ne sont pas vraiment penchés sur le comment. Ils sont plus penchés sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi telle planète allait faire commerce avec telle autre, pourquoi tel empire allait faire commerce avec tel autre empire par exemple, sur les conséquences que ça pouvait avoir, à la fois les conséquences pour le coup militaires, voire sociétales, ainsi de suite. Plutôt que sur quel type de vaisseau on va développer pour pouvoir faire ce commerce. Et ce qui est une question assez cruciale, parce que c'est vrai que, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez, par exemple, faire voyager du pétrole ou du gaz naturel ou des métaux, c'est pas des choses qui vont se faire simplement. Et l'idée, c'est pas d'en envoyer 5 litres d'une planète à une autre. Donc, il y avait une description tout à l'heure très, très claire de la quantité d'énergie qu'il faut pour faire décoller une fusée ou un vaisseau d'une planète. Si vous grillez deux fois l'énergie pour la faire décoller par rapport à ce que vous avez en soute, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique technique scientifique qui est majeure. C'est pas une problématique qui a été énormément développée, je pense, dans la littérature de science-fiction. Une des raisons, c'est peut-être que ce n'est pas forcément la chose la plus passionnante à développer au cours des pages, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on fait une supposition, voilà, ça fonctionne. Mais c'est pas vraiment. Enfin, encore une fois, le pourquoi oui, le comment n'est pas vraiment expliqué, je pense.
En fait, moi, pour un système comme ça qui transporterait que du cargo, et donc cargo, on n'est pas pressé. Moi j'aurais tendance à utiliser par exemple si c'était entre la Terre et Mars des orbites cycliques en fait, et des orbites qu'on appelle les cycleurs qui vont croiser la trajectoire de la Terre et la trajectoire de Mars à des vitesses raisonnables et donc une fois par orbite je suis sur Mars, une fois par orbite je suis près de la Terre et en boucle comme ça, donc c'est des orbites qui mettent à peu près 3 ans, alors faut pas être pressé mais donc on pourrait imaginer avoir plusieurs plusieurs gros modules de transport qui sont sur ces orbites et qui circulent en permanence entre la Terre et Mars, et puis avec des systèmes qui viennent les alimenter ou les vider. Il y a cette solution-là, quoi. Bon, après, reste toujours le problème de décoller, hein, c'est sûr.
Il y a quelques auteurs qui ont aussi bêtement poussé des gros astéroïdes, qu'ils soient reconstitués ou pas. Vous faites un astéroïde de quelques milliers de tonnes et puis hop là, une bonne poussée direction la Terre et puis on va le récupérer à l'arrivée. Ça...
C'est pas que des auteurs en fait, c'est des concepts qui existent, particulièrement avec la technologie des nanosatellites. Ça reste de la science-fiction, mais étudier au niveau scientifique, on regarde si on peut capturer gravitationnellement, en mettant une myriade de nanosatellites autour d'un astéroïde, si on peut le capturer pour le renvoyer sur une orbite qui permettrait d'aller récupérer les métaux rares ou tout ce qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, on sait tous qu'il n'y a rien de suffisamment intéressant pour que le retour sur investissement soit conséquent. Donc ça reste du domaine conceptuel, mais c'est sans doute pas tant que ça de la science-fiction, cette capacité à aller explorer et ramener du matériau de quelques régions extraterrestres pas trop lointaines. Le vol galactique, c'est une autre histoire, mais dans le système solaire, j'attends de voir ce qui se passe d'ici 100 ans.
Sinon, je me rappelle dans Carbone modifié, Richard Morgan, on voyait bien qu'en fait chaque système était complètement indépendant d'un point de vue commerce. C'est-à-dire que les matériaux, c'était sur place, il n'y avait pas du tout de transport de matériaux. Tout ce qu'on transportait, c'était des êtres humains, et d'ailleurs uniquement leur esprit. Et la richesse, c'était... Enfin, il y avait des empires commerciaux uniquement sur le transport d'êtres humains, la culture de corps, etc. Et c'était plus du tout l'humain qui était le... Enfin, plus du tout la matière qui était un produit de commerce interplanétaire. C'était purement des corps et des esprits. Dissociés d'ailleurs, on pouvait aller se retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre à l'arrivée parce qu'on n'avait pas encore cultivé le corps vu que le patrimoine était lui pas encore arrivé. Donc ça donnait une richesse d'univers absolument hallucinant, et franchement je sais pas si ça a été très exploré à part par lui.
Mais c'est, pour le coup, c'est un très bon roman, mais très guerrier, c'est à dire qu'ils passent leur temps à
trop de testostérone. Ouais.
À vous, on va vous faire circuler un micro. Et pendant que le micro circule, un petit commentaire sur les images qui défilent. On a des images des intervenants présents. On a aussi des images qui ont été sélectionnées par Laurent Genefort. Et si vous voulez compléter évidemment les vaisseaux marquants, et bien sûr, c'est l'affiche de Denis Bajram qui l'a fait pour les Utopiales cette année.
Oui, bonjour. Là, on a discuté beaucoup de vaisseaux pour aller très loin. Pour lui, le voyage spatial, c'est tout de suite aller dans un autre système solaire ou au plus près sur Mars. On a à peine évoqué la Lune. À très court terme, à notre échelle, sans être vraiment de la science-fiction, c'est le tourisme spatial, aller juste dans l'espace, faire quelques jours, quelques semaines sur une station spatiale internationale. Donc déjà ça, cette forme de voyage, il y a peut-être déjà énormément de choses possibles. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à développer ici, ou alors est-ce qu'on a déjà tout fait?
Alors aujourd'hui, actuellement, il n'y a que les institutionnels, hein, que les agences spatiales qui envoient des astronautes effectivement sur des stations spatiales. Donc la Station Spatiale Internationale, où les astronautes font des rotations de 6 mois. D'ailleurs, bientôt, un astronaute français, hein, Thomas Pesquet, qui va partir bientôt. Mais il y a également, il y a les Chinois, hein, qui ont en octobre là envoyé un module qui va. Ils ont envoyé l'astronaute pour aller rejoindre ce module courant octobre. Hein. Et il y a des projets de tourisme spatial avec des stations orbitales destinées au tourisme, faire un petit tour en orbite, vivre là. Alors ça va du simple petit vol parabolique où je vais monter à la frontière de l'espace, je vais voir la rotondité de la Terre, la couche, la jolie couche bleue de l'atmosphère, et puis je vais redescendre, jusqu'à des séjours en orbite. Bon, c'est sûr qu'à court terme, il y a vraiment des chances qu'il y ait du tourisme spatial suborbital. Hein, donc, vivre quelques minutes, 7 minutes de microgravité et revenir. Le prix des billets, parce que Virgin Galactic, par exemple, a déjà fait des pré-réservations, c'est en gros $200,000. Pour 7 minutes d'apesanteur. Alors là, aujourd'hui, il y a aussi eu déjà du tourisme spatial sur la Station Spatiale Internationale, hein, parce qu'il y a plusieurs millionnaires qui se sont payés une place à bord du Soyouz. Ça coûte 20 millions de dollars. On peut aller passer quelques semaines sur la Station Spatiale Internationale. Donc aujourd'hui, le truc, c'est juste réservé aux très, 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 très riches, quoi. Si vous gagnez au loto, enfin, il faut quand même gagner un bon euro-million pour pouvoir aller sur l'ISS.
Juste pour compléter un peu, si tel que je comprends la question, quelles sont les perspectives par rapport à tout ça? Moi, de manière assez provocative, je dirais que sur l'orbite basse, on a fait le tour. Ça coûte toujours autant d'argent, on envoie toujours des astronautes, c'est très bien. Il y a plein d'objectifs derrière, mais c'est vrai que s'il y a un développement qui se fera, il ne se fera pas pour la science, il ne se fera pas pour la technologie orbite basse. Il se fera sur d'autres concepts qui sont ceux qui viennent d'être... décrite par ma voisine. Sur le vol lunaire, on est sur la même logique. Scientifiquement, on a quand même un peu fait le tour. Il y a toujours des choses à faire, mais, Mais ça faisait partie d'ailleurs de la vision cosmique de Bush en 2004. Les hôtels de luxe et les cimetières, on les verra. Pour ceux qui ont envie de se payer un truc fun, et ben, ils iront sur la Lune. C'est probable. Après, point de vue exploration, en dehors de la science-fiction, c'est vrai qu'il y a clairement le vol sur Mars qui fait partie des impératifs scientifiques, on va dire, du vol habité. Et il y a aussi la possibilité d'aller survoler ou se poser sur les astéroïdes. Et là, je crois qu'on a fait le tour sur les 50 années. On ne va pas aller plus loin. Vénus, ce n'est pas la peine. Mercure, on n'y pense même pas. L'orbite basse, c'est déjà assez compliqué. Revenir sur la Lune, on saura le faire, mais ce ne sera pas pour but scientifique. Mars, astéroïde, et vous avez fait le tour de ce que sont les perspectives dans le monde réel. Après, on est dans le domaine de la science-fiction.
Merci. Bonjour. Je tiens d'abord à rendre hommage à Korolev et à son missile qui était fait pour bombarder les États-Unis et qui a, en fait, envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Donc, l'origine, quand même, de la fusée, c'est d'abord un missile pour envoyer des armes nucléaires. Et on en profite actuellement pour recevoir les émissions de télé grâce aux satellites. Alors, ma question est celle-ci. Je crois qu'on a déjà pensé à une propulsion par explosion thermonucléaire, des sortes de pulsations. Et est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en activité là, ces gros moteurs qui nous permettraient d'aller quand même assez loin en utilisant une énergie bon marché qu'est le nucléaire?
Alors, avant d'aller sur des systèmes à explosion, parce qu'il faudrait quand même les tester, etc. Donc c'est quand même aller tester. Enfin, c'est pas imaginable de tester au sol un système de propulsion par bombe nucléaire. Avant ça, il y a déjà eu, l'utilisation de la technologie nucléaire pour la propulsion spatiale. Dans la foulée, même avant en fait les missions Apollo, les Américains pensaient déjà à l'objectif Mars. Et donc dans les années 70, ils ont développé des moteurs à propulsion nucléaire où en fait l'hydrogène, au lieu de brûler avec de l'oxygène dans une chambre de combustion, on le faisait chauffer par un réacteur nucléaire et on éjectait cet hydrogène chaud. On avait des performances en vitesse d'éjection deux fois supérieures à celles des meilleurs moteurs fusées hydrogène-oxygène. Le programme, ils ont testé une dizaine de prototypes. Il y a eu plusieurs dizaines d'heures de fonctionnement. Ils ont testé ça dans le désert du Nevada. C'était des moteurs qui étaient quand même lourds, donc on ne peut pas décoller avec. Ils ne sont pas capables de pousser le propre poids du moteur plus de l'étage. Donc c'est des systèmes de propulsion qu'on peut imaginer utiliser qu'en orbite. Par ailleurs... Comme là, c'est en l'occurrence c'est un système qui est en boucle ouverte, donc il n'y a qu'une seule barrière finalement entre les matériaux, les produits de fission qui sont radioactifs et le milieu extérieur, c'est seulement la gaine du combustible par rapport à tous les systèmes nucléaires qu'on a au sol où il y a toujours au moins trois barrières. Et on peut imaginer vraiment utiliser ce système-là qu'à une certaine altitude. Parce que si jamais le système il venait à retomber parce qu'il a une défaillance, et puis au bout d'un moment, même au bout d'un certain nombre d'années, même au bout de dizaines ou de centaines, voire de milliers d'années, il y a des résidus radioactifs de produits de fission. Du coup, ça nous oblige à démarrer ce système de propulsion qu'au-delà d'une orbite suffisamment haute pour que cette orbite ait une durée de vie naturelle qui fait qu'on est sûr qu'au moment où ça retombe, parce que même à 1000 km, ça finit toujours par retomber. Alors, au bout de dizaines de milliers d'années, mais ça finit toujours par retomber. Donc, on pourrait le faire démarrer qu'à partir d'une orbite suffisamment haute. Du coup, il faut l'emmener là-haut. C'est un système qui est lourd. Et au final, seulement deux fois plus de performance que le meilleur moteur fusée actuel, c'est pas un game changer, quoi. Ça va pas révolutionner le transport spatial. Donc, il y a eu aussi l'étude de la propulsion nucléaire électrique, où là, c'est une petite centrale nucléaire, voilà, quelques kilowatts jusqu'à quelques mégawatts, où là, on va utiliser ça pour des turbines qui vont... Enfin, on va chauffer un fluide qui va s'étendre dans des turbines, qui va produire l'électricité, qui va être utilisé dans des propulseurs électriques. Donc ça, c'est déjà... on bénéficie de l'impulsion spécifique, donc des super vitesses d'éjection des propulseurs électriques, mais avec une poussée qui devient significative parce qu'on apporte beaucoup de puissance. Donc ça, on peut imaginer réduire un petit peu la durée du trajet Terre-Mars à, mettons, 4 mois si on met une vingtaine de mégawatts. Et alors le système par bombe, il y avait un projet de la NASA qui s'appelait Orion qui utilisait ce système. On va faire exploser une bombe et puis là, on va va y avoir comment dire, un bouclier hein, qui va permettre de recevoir bah, l'onde de choc, hein, la pression qui va pousser le vaisseau. Donc c'est vraiment resté à l'état de concept. Je pense que le bah, gros point de blocage, c'est tout ce qui est essai d'un système comme ça, quoi. Et alors derrière, il y a eu aussi, parce que même sur les systèmes de propulsion nucléaire électrique avec des petits réacteurs nucléaires, on reste limité par la capacité des matériaux à tenir les hautes températures pendant une durée qui est quand même longue, hein, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'heures de fonctionnement, hein, le temps d'arriver sur Mars. Et ça, c'est vraiment un des points durs, à part tout ce qui est les essais au sol de systèmes comme ça, et puis leur coût, bien évidemment. Il y a quand même cette question de la tenue des matériaux à très haute température pendant des milliers d'heures. Et donc même avec des technologies, les réacteurs spatiaux, ça n'a rien à voir avec les réacteurs terrestres, parce qu'il faut des températures beaucoup plus élevées pour qu'ils puissent être plus compacts, plus légers, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais il y a cette complexité supplémentaire due au fait que c'est quand même nucléaire, et donc on l'utilisera pas en deçà d'une altitude suffisamment haute pour qu'il y ait absence de risque. Pour qu'il y ait absence de risque au lancement, ça, il y a des solutions simples, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas déclencher de fission nucléaire en dessous d'une certaine masse critique. Tant qu'il n'y a pas cette masse critique ensemble, ben, la réaction en chaîne ne s'entretient pas. Donc il suffit de ne pas envoyer la masse critique en même temps. On envoie en plusieurs lancements. Voilà. Donc on peut le risque en lancement, on peut le dédouaner. Par contre, une fois que ça fonctionne, ben là, on veut le faire fonctionner suffisamment haut pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Et ça rend ça fait perdre de l'attractivité à cette solution, parce qu'une fois de plus, ben, faut l'emmener là-haut, quoi.
Eh bien, c'est sur ce point, sur la propulsion nucléaire, qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci, Laurence.
Si les auteurs sont en dédicace, je ne sais pas.
Oui, cette table ronde, comme toutes les tables rondes, est poursuivie à la librairie par une séance de dédicace des intervenants. Merci beaucoup.